un faux bon sujet. Voilà comment Roland Barthes qualifiait la voix à l'occasion de son cours sur le neutre au Collège de France. Il avait raison. Cet objet qui résiste ne suscite à première vue que des adjectifs, dont le même Barthes n'hésitait pas à dire qu'il constituait la catégorie linguistique la plus pauvre pour espérer décrypter un objet d'étude. Encore parlait-il de la critique musicale qui peut au moins se soutenir d'entendre les voix dont elle parle. Sans remettre en cause les approches de la narratologie, ni contester la pertinence d'une notion comme celle de polyphonie, on ne peut guère oublier que le discours écrit, comme le rappelle Bruno Clément, est par définition aphone. Quand bien même mimerait-on avec assez de vivacité la présence d'une parole convoquée à l'intérieur du texte, que la question resterait ouverte de savoir à qui l'attribuer. Sait-on jamais bien qui parle dans un texte ? A fortiori, lorsque ce dernier est autofictif et que son auteur assume le statut vacillant d'un sujet mis à mal par le caractère nécessairement fictionnel des histoires que nous nous racontons tous sur nous-mêmes. Bon, mon affaire semblait mal engagée. Elle l'était d'autant plus que me replongeant dans l'œuvre de Camille Laurence, et alors que je prévoyais de cantonner ma réflexion à deux ou trois de ses textes les plus récents, il m'a paru assez vite que la nage allait m'entraîner bien au-delà, petit boutesse universitaire sautant allègrement à la rencontre des sirènes, délaissant mon plan de travail tel Ulysse attaché à son mât. Plus je lisais, plus il m'apparaissait qu'il fallait remonter jusqu'à 1995 et à la publication de Philippe pour appréhender la manière dont l'écrivaine tente de faire entendre les voix des hommes dans son écriture. Il y avait là une scène inaugurale, la mise en place d'une structure et d'un désir dont les contours, telle sera ici mon hypothèse, esquissent depuis lors le cadre métaphorique et la recherche à l'intérieur desquelles résonnent les voix masculines. De Philippe à celle que vous croyez, les figures du masculin parlent et sont parlées à partir d'une tension irrésolue entre présence et absence, tension dont l'ambiguïté fondamentale, loin d'être évacuée par Laurence, s'affirme comme une éthique pour la littérature contemporaine. Celle de ne jamais oublier que la frontière est ténue entre donner la parole et la dérober, entre parler pour l'autre et parler à sa place. Faisant mine d'oublier la difficulté qu'il y aura à dire quelque chose de ces voix qu'on lit sans les entendre, ce sont donc cette tension et cette éthique de la voix masculine que je vais maintenant esquisser. Philippe, le bref récit publié par Camille Laurence suite à la mort de son fils juste après sa naissance, est l'histoire de l'infans, c'est-à-dire l'écriture de celui qui ne parle pas, qui ne parlera pas, dont la voix a pourtant été follement attendue, au point de se faire entendre en amont, avant d'accéder au stade de phoné, de son porté par un corps. C'est ainsi que la narratrice et son mari communiquent avec l'enfant dans un langage d'avant le langage. Qu'il soit à l'écoute du galop de son cœur, que la mère s'émerveille des réponses du bébé à la sollicitation de sa main pendant la grossesse, ou qu'il se souvienne, après le drame, je cite, des conversations à trois quand il nous répondait en morse. Tout indique que s'amorce là un dialogue dont la parole et la voix devraient être le relais naturel, et que le décès brutal du tout petit garçon fige en lettres mortes. Le silence irrémédiable est souligné par l'absence de ce qui annonce normalement l'arrivée de l'enfant dans le monde, ce moment où, donnant de la voix, pour la première fois, il fait son entrée dans la communauté des êtres parlants. Je cite. « Je demande pourquoi l'enfant n'a pas crié, pourquoi on ne me le donne pas. Tout le monde a quitté la pièce, seule la sage-femme me répond qu'on s'occupe de lui. Je n'entends rien, pas un cri. » À la place du premier signe que devrait émettre Philippe avec sa voix de petit homme, résonne seule la réponse de la sage-femme, parole du féminin qui sait déjà, mais qui retarde momentanément l'interprétation du silence. Ne venant pas, ce cri inaugure une absence qui va marquer la relation à la voix masculine au-delà de Philippe. La fiche d'état civil établie après la naissance et la mort de l'enfant semble d'ailleurs prendre acte d'une disparition à l'intérieur même du langage. D, C, D. Rébus de la mort pour la dire sans effroi, mot sans voyelle, mort sans voix. Si, comme le développe Hegel dans son cours d'esthétique, la pureté de la voix et sa capacité à englober la totalité idéale du sonore sont en rapport étroit avec les sons purs des voyelles, attendu qu'elles seules permettent de vocaliser, la disparition des voyelles dans le mot qui désigne le décès du bébé entérine l'impossible d'une voix à venir. Paradoxalement, cette absence séminale d'une voix de petit homme qui va exiger que s'écrivent et se mettent en scène toutes les autres, donc c'est ça qui va exiger qu'elles se mettent en scène toutes les autres, le vide que creuse l'inouï de Philippe demande à être comblé par l'écriture. Si Camille Laurence a reconnu dans quelques-uns la place essentielle que l'écriture a toujours eue dans sa vie, elle ajoute, je cite, que ses liens déjà noués se sont serrés davantage à la mort de son enfant. En effet, et sans qu'on puisse pour autant parler de consolation, les mots prennent la seule forme possible d'un secours improbable. Surtout, le drame vécu transforme l'acte d'écrire en nécessité, en urgence, comme le disait Isabelle, pour venir se loger à l'endroit exact où se tait l'enfant. Je cite, « Je crie parce que tu n'as pas crié. J'écris pour qu'on entende ce cri que tu n'as pas poussé en naissant. Je crie pour que tu cries. J'écris pour que tu vives. » Du cri de l'enfant à l'écriture de la mère, il y a plus qu'une de ces dérivations assonnantes qui émaillent les textes de l'auteur. Les mots écrits, s'ils répondent à un appel qui aurait dû être sonore, viennent en même temps pallier et révéler l'absence de la parole vive. Ils font entendre l'absence de la voix autant qu'ils convoquent sa présence. En somme, à compter de Philippe, toute voix masculine s'écrira depuis cette tension entre présence et absence, depuis cet absent, là, vérifiant non pas mieux, mais de manière plus aiguë, ce que toute littérature doit à la figure de la prosopopée. Mais cet appel émanant du silence n'est pas le seul auquel les ouvrages ultérieurs de Laurence répondent. Il en est un second bien vivant que l'écrivaine va s'efforcer de rejoindre, car elle n'est pas seule, bien sûr, dans le deuil de Philippe. C'est Yves, le père de l'enfant, qui l'incite littéralement à s'adresser à leur fils. Je cite. « À cette époque, les mots étaient tout ce à quoi je pouvais me tenir sur un fil qu'Yves, le père de Philippe, riveté à moi dans le malheur, avait lui-même tendu en proposant pour toute cérémonie funèbre d'écrire une lettre à notre enfant, de la lire et de la déposer sur sa tombe. L'horizon était une ligne d'écriture. » Alors qu'ils ont basculé ensemble dans le labyrinthe tortueux du malheur, d'où ils peinent à reprendre langue avec les vivants, Yves tend l'indispensable fil d'Ariane qui doit leur permettre de dégager une voie de sortie. Que ce fil prenne la forme d'une lettre, missive d'amour adressée poste restante à celui qui ne répondra pas, n'est pas anodin. C'est à partir de ce geste épistolaire, supposant la volonté de s'adresser à quelqu'un et l'attente d'une réponse, dont l'impossible rend ici plus déchirante la fonction d'envoi, que se construira l'un des dispositifs récurrents de l'œuvre. Étroitement nouée à la figure de l'appel masculin qu'elle déplace et retourne comme un gant, la métaphore montrant les narratrices de Camille Laurence s'adressant à un homme, entre apostrophe, invocation et destination, oriente souvent la structure narrative et la répartition des voix masculines et féminines. Cette orientation s'affiche d'abord dans le virage générique du roman à l'autofiction qui suit la publication de Philippe. Camille Laurence l'a rappelé à l'occasion du colloque « Les enjeux de la chair ». Je cite, « Structurellement, l'autofiction est toujours plus ou moins une interpellation, parfois une invocation. Elle suppose et appelle l'existence d'un autre, un lecteur, quelqu'un qui va me faire une place comme je lui en fais une. Cet appel à l'autre ne saurait s'écrire autrement que dans la langue d'un « je » s'adressant à un « tu », l'apparition d'une narration à la première personne du singulier, exigeant que se modifie également la figure et la position du destinataire. Un rideau voilé feutre soudain les voix, on baisse un peu l'abat-jour, pour paraphraser Paul Géraldi, dont la voix traverse l'amour roman. En effet, la première personne suppose un lien confidentiel. Je cite, « Je est pour moi le pronom de l'intimité, il n'a sa place que dans les lettres d'amour, j'écris pour dire je t'aime. » C'est ce qu'explique Camille Laurence dans les dernières pages de Philippe. Les livres à venir puiseront tous à l'encre de la correspondance amoureuse, à condition d'entendre cet adjectif dans sa signification la plus extensive. Déclaration d'amour au mot, au désir, à l'autre, ou vivant en somme, à quelques-uns, et tentative d'envoyer comme en contrebande, dans la trouée blanche des marges, un message vers l'autre rive. Cette fonction et structure d'adresse qui illustre l'évolution générique est reprise et dépliée à l'intérieur de l'œuvre dans une ambivalence où la voix masculine tantôt interpelle la narratrice, tantôt s'efface complètement dans un dispositif qui renvoie le silence de l'homme à l'absence fondatrice de la parole de l'enfant. Jeu d'absence et de présence phonique du masculin, tension d'une voix qui jouerait à cache-cache. Deux personnages récurrents de Camille Laurence en témoignent, l'éditeur et le psychanalyste. L'éditeur est plusieurs fois mis en scène comme celui qui appelle. Et cet appel se décline toujours au propre et au figuré. Au début de « Dans ces bras-là », le verbe est répété comme une litanie, jouant sur toutes les acceptations du mot. L'éditeur appelle, et si la narratrice ne parvient pas à s'en faire une image, elle est sensible à ce qu'elle entend à travers le téléphone. Je cite, « Sa voix lui plaît, et puis c'est un homme. À quoi servirait d'écrire? Quel sens aurait ce geste si ce n'était pas un homme qui l'acceptait, qui l'en remerciait ?» par sa voix, qui n'est répercutée que dans l'écoute de la narratrice sans qu'elle ne nous soit donnée au discours direct, l'homme qu'est l'éditeur enclenche l'écriture, inscrivant d'emblée cette activité dans le désir, un lien que Camille Laurence, de livre en livre, ne fait que renforcer. La figure de l'éditeur relance d'autant plus la structure d'adresse mise en avant dans la pratique autofictionnelle qu'elle répond en miroir à celle du destinateur de l'œuvre dans sa nécessité à être de sexe masculin. Je cite « Je sais que ce sont les femmes qui lisent, mais je ne pourrais pas écrire si je ne pensais pas, fût-ce de façon confuse, silhouette à contre-jour, que vous êtes un homme. » L'éditeur est ainsi mis en position d'inaugurer, par son appel du 17 juin, le désir des hommes pour l'écriture de Camille Laurence et de ses doubles. Il est, je cite, « l'homme qui l'a conçu », faisant alors surgir un autre désir dont les suivants ne seraient qu'une mise en abîme. Celui du père, arpentant le couloir, cigarette aux lèvres, anxieux, le père attendant la naissance de sa fille, l'attendant elle, l'appelant de ses vœux. Il est aussi celui qui la nomme, qui l'appelle, en lui attribuant son prénom. Une scène dont on saisit d'ailleurs le reflet dans l'amour roman, où la narratrice a l'impression d'accéder à sa véritable identité lorsque son amant Jacques est le premier à l'appeler de son nom choisi, Camille, dans un rapport charnel. Le portrait de l'éditeur en figure du père est un embrayeur d'écriture est renforcé lorsqu'il se renverse en son négatif. Répondant de façon strictement parallèle à l'appel téléphonique inaugural que décrit Dans ces bras-là, Romance nerveuse met en scène le violent évincement dont la narratrice est victime pendant l'affaire qui l'oppose à l'auteur de Dolorosa, pour rester dans l'espace diégétique. La voix de l'homme se fait vocifération, l'appel fait virer la communication à l'ex-communication. Je cite, « J'ai dit allô, rien d'autre jusqu'à la fin de la communication, de l'ex-communication. Il a vociféré pendant 5 minutes, mon texte était ignoble, mes arguments inacceptables, je n'avais pas à rendre public mon opinion sur un auteur de la maison, je n'en faisais donc plus partie, il me libérait de toutes mes obligations. Il a raccroché. » Alors que l'appel masculin de Dans ces bras-là suscitait et sollicitait en retour la voix féminine de la narratrice, cette nouvelle scène la fige dans le silence et dans l'impossibilité d'écrire. Je cite, « Je n'avais plus d'adresse, plus personne à qui raconter l'histoire. Je ne faisais plus partie de la maison, il n'y avait plus personne à l'adresse indiquée, expéditeur indésirable. » Il est frappant de voir combien la structure d'adresse s'arrime ici encore au désir, expéditeur indésirable. Et comment elle fonctionne selon une double logique. Une femme s'adresse à un homme parce qu'il l'a appelé et qu'il l'écoute. Mais c'est précisément parce qu'il accepte de se positionner en récepteur que l'éditeur permet, en retour, à la narratrice d'avoir elle-même une adresse, faisant ainsi de la maison d'édition, dont le lecteur averti sait qu'elle porte en réalité le vrai nom de l'éditeur réel, le lieu depuis et vers lequel l'auteur écrit. La mise en voix du psychanalyste, personnage que l'œuvre de Camille Laurence décline, invariablement au masculin à l'exception de Romance nerveuse, implique un va-et-vient similaire entre silence et prise de parole. Les lois de la fonction, certes, y invitent. L'analyste se tait, mais son silence parle comme aucun autre. Il est par définition celui qui écoute, à qui l'on s'adresse, dans l'espoir d'entendre en retour quelque chose de sa propre voix. Pour le dire de manière un peu paradoxale, c'est parce qu'il se tait qu'on entend quelque chose. Ce dispositif qui place l'analyste muet en récipiendaire de la parole féminine structure entièrement Dans ces bras-là, faisant de ce texte un discours de femme sur les hommes et adressé à un homme, ce dont je parlais et celui à qui je parlais, dit la narratrice. Au passage, on peut noter que Laurence renverse ainsi l'une des constantes de l'histoire littéraire, celle qui fait entendre un discours masculin tenu sur les femmes, une parole d'homme à l'intérieur de laquelle elles sont prises et parlées. L'écrivaine en donne d'ailleurs un exemple dans « Ni toi ni moi » en déconstruisant Adolphe de Benjamin Constant, je cite, « où tout est raconté à la première personne, de son point de vue à lui, masculin singulier, en restant extérieur à la subjectivité du personnage féminin d'Elénor. » De manière significative, Dans ces bras-là ne donne à lire la boîte d'Abel Veil que 2 fois dans l'exercice de son métier. « Je vous écoute », dit-il à la narratrice en guise d'entame. Cette courte phrase d'attente suscite la parole féminine et permet à l'œuvre de s'écrire, tournée vers une écoute à l'intérieur du texte, à laquelle va s'arrimer la lecture dans la réalité, puisqu'elle installe en quelque sorte l'œil du lecteur à hauteur d'oreille. La seconde intervention de l'analyste évite le discours direct et les indices typographiques qu'il annoncerait. Elle est entièrement prise dans l'interprétation qu'en fait la narratrice, à peine du discours rapporté, tant le petit mot utilisé est fondu dans le monologue du personnage féminin. Je cite « J'attends que vous disiez oui, comme la dernière fois, quand j'ai cessé de parler. Au bout d'une minute ou deux, vous avez dit oui, d'une voix merveilleuse, oui. Je ne sais pas le redire, mais je me le rappelle, oui, comme un homme qui aime une femme. » Un des « oui » est en italique, je le dis juste. L'italique signale le basculement d'une voix à l'autre. Il fait littéralement pencher le discours de la femme vers ce minuscule mot d'homme. Plus qu'un simple soulignement, il inscrit le souvenir d'une parole d'homme, je me le rappelle, au sein même de la voix qui échoue à la reprendre complètement à son compte. Je ne sais pas le redire. En parallèle, l'intensité de la remémoration et l'importance accordée par la narratrice à ce mot d'acquiescement, importance qu'on retrouve d'ailleurs dans le reste de l'œuvre de Camille Laurence, en font un emblème de parole masculine, une sorte de mot talisman qui pourrait contenir tous les autres. Cette façon d'imaginer des dispositifs de narration où la rareté de la parole des hommes rend leur voix d'autant plus précieuse n'est pas l'apanage de Nancy Brala. La première partie de celle que vous croyez fonctionne sur le même principe. La patiente Claire s'adresse au psychanalyste Marc, et lorsque sera donné à lire un monologue dudit Marc, il s'empressera de réintroduire la voix de Claire dans son discours par le biais du roman qu'elle a écrit et dont il donne à entendre des extraits. Présence-absence de la voix de l'homme, qui énerve également ni toi ni moi, où le silence de l'analyste est remplacé par le silence du cinéaste, correspondant taiseux, dont la voix ne perce qu'à travers les reprises rhétoriques qu'en propose la narratrice. Bien sûr, le silence n'est pas le seul vecteur de parole masculine. La tension entre présence et absence se dessine aussi sur le versant sonore et vivant de la voix des hommes. La littérature de Camille Laurence s'enracine profondément dans le désir. Le corps, toujours, vient épouser l'idée. La voix, c'est à la fois le contenant et le contenu, le véhicule et l'adresse, la manière de faire vibrer les cordes vocales, l'effort physique que cela suppose. La voix, en somme, est une interface qui prend forme, je cite, « dans l'écart toujours ouvert et toujours refermé entre le son et le sens », comme le disait Louis Marin. Très attachée au langage, Camille Laurence ne l'expose pas tel un papillon épinglé derrière une vitre, elle le fait sonner et vivre depuis des corps, où grains de peau et grains de voix renvoient à une même conception de la parole vive. Le grain qui se palpe sur le corps de l'autre, qui se perçoit dans sa voix lorsqu'on tend l'oreille, c'est toujours celui qui rend sensible ce lieu de singularité, de folie propre, d'où se dit la part la plus personnelle d'un être. Je cite, « Les mots ont une voix, ils ont un grain, comme on parle des fous, des marginaux. » La voix, la peau, le corps, phénoménologie laurentienne d'un humain qui se dit et se donne à un autre. S'adressant à un autre éditeur nommé Louis, que l'on entendra encore moins que celui d'ouvrages plus anciens, puisque la narratrice lui écrit, le personnage féminin de celle que vous croyez trace le portrait de la langue en émanation charnelle. Je cite, « Rien que le mot « langue » est d'une obscénité folle. Moi, jamais, jamais je n'ai pu le prononcer dans son sens linguistique sans penser à son autre sens, sans voir quasi sous mes yeux les organes se mêler, s'effleurer, se chercher. » Dans le mot qui désigne la langue se dévoile déjà la promesse du rapport amoureux. Pour Camille Laurence, pour les femmes qu'elle met en scène, la voix de l'homme devra être capable de changer les mots en organes. Elle devra tenir parole face à l'espoir immense qui est placé en elle. Ne dit-on pas « bander la voix ». D'ailleurs, les histoires d'amour racontées par l'écrivaine semblent souvent se tenir sur la crête du langage, basculant tantôt dans le lien, tantôt dans la rupture, selon que l'homme qui manie les mots parvient à les souder au corps, c'est-à-dire à les incarner. Dans Ni toi ni moi, le personnage d'Arnaud passe d'un côté à l'autre de cette frontière qu'on entend plus qu'on ne la voit. Il peut d'abord réussir cette alliance entre la voix et le physique, alors même qu'il passe pour cela par la voix de deux autres hommes, le poète Jean-Antoine de Baïf et le baryton qui chante le poème mis en chanson, cadeau d'Arnaud à la narratrice. Je cite. Écoutez, dit la narratrice. Il y a là, dès le début, une inflexion qui n'appartient qu'à lui, qui est lui. Une fraction de seconde, la voix, dans sa modulation, le rend présent et même visible. C'est étonnant qu'une voix du siècle dernier puisse créer l'image d'Arnaud, c'est-à-dire faire entendre cette écho phonique du voir que Louis Marin traquait dans son article « Voir la voix ». La narratrice comprend que ce nouage se fait en vérité dans le rapport au corps et au mouvement. Je cite, c'est un mouvement plus qu'un son, c'est un corps. Oui, voilà, c'est une inflexion séduisante comme un geste, la courbe d'une épaule, l'inflexion d'une nuque. Cette voix est un corps qui se penche vers moi. Mais chez les hommes qui traversent les livres de Camille Laurence, la déliaison entre voix et corps guette toujours dans l'angle mort de l'histoire d'amour. Rapidement, les mots qu'Arnaud emploie sonnent faux. L'harmonie entre parole et geste est rompue. Son corps disait autre chose que sa voix, constate la narratrice. Et cette disjonction provient logiquement d'un artifice perçu au cœur d'une phrase qui, elle, ne supporte aucune fausseté. Je cite, il lui avait dit « je t'aime ». Et quelque chose s'était effondré dans l'empire de la langue. « Je t'aime » était une phrase morte. Il n'y avait pas de corps dessous. « Je t'aime » venait d'une chair morte. La désincarnation de la voix entraîne celle de la langue et inversement. Cet instant marque d'un signe funèbre toute la parole masculine à venir. Dès lors, les mots, je cite, lui arrivaient tous d'un corps mort sur lequel ils grouillaient comme des vers. La voix d'Arnaud lui arrivait en léger différé ou décalé, décollé de sa source, éloquence, ventriloque. Toujours inquiète que le corps des hommes s'absente de leur voix, qu'elle-même manque de coffre en essayant de faire passer leur parole dans la sienne, Camille Laurent s'imagine une ruse pour charger la langue des hommes, comme on leste d'un poids lourd se contente d'ancrer dans le sol, ou comme on charge d'un charme certains fétiches d'Afrique. Elle l'augmente et elle la fait vibrer, c'est-à-dire qu'elle invite autour et à l'intérieur d'elle toutes les voix des grands hommes de la littérature. Elle la trame et la tisse parmi l'écho, convient aussi les rimes et les rythmes des chanteurs d'hier et d'aujourd'hui. Bien sûr, l'intertextualité de l'écrivaine n'évince pas les mots des femmes, mais force est de constater que c'est en grande majorité ceux des hommes qu'elle intègre, en exergue, en épigraphe, scandant autant le texte que le paratexte. Peut-être parce qu'elle est plus assurée de sa voix de femme, plus certaine de sonner juste lorsqu'il s'agit de parler depuis ce qu'elle est et de ce qu'elle connaît. Peut-être ce déséquilibre reflète-t-il aussi tout simplement les rapports de force traversant l'histoire littéraire. Toujours est-il que l'opération, consistant à faire résonner les voix de La Rochefoucauld, de Paul Géraldi, de Benjamin Constant, de Marivaux, de Racine et de Claudel, pour ne citer qu'eux, marque d'une part la tentative de garder une vivacité dans leurs paroles. Moderniser Constant ? Vous ne pouvez pas faire ça, sa langue c'est son corps, c'est tout ce qu'il a trouvé pour rester vivant, assène la narratrice de Ni toi ni moi à son silencieux cinéaste. D'autre part, l'enrichissement des voix ainsi obtenues fait de la langue masculine une matière à stratifier et à reprendre, à rallonger et à densifier, l'identifiant alors à l'image même de l'amour, tel qu'il est décrit dans l'amour roman. Je cite « L'amour est ce livre palimpseste, sade sous racine, plus une géologie qu'une généalogie. Sédimentation de mots et d'images, couches de secrets et de temps, les unes cachant les autres, sur lesquelles elles s'appuient, se fondant en s'augmentant. » En somme, ce palimpseste de voix où le masculin d'hier et d'ailleurs vient hybrider le masculin d'aujourd'hui reste tendu vers le même objectif. Permettre que l'homme s'aventure dans un échange vivant avec la parole féminine, symboliser l'appel et l'écoute que représentent et l'amour et la littérature. Élargissant la portée de la voix des hommes, Camille Laurence cherche à en augmenter le corps au cœur même du texte. Visant la tessiture masculine la plus étendue, l'intertextualité contribue à créer ce que je nommerais une texiture, la quête de l'ensemble des mots de l'échelle littéraire qui conviendrait le mieux à une voix déterminée. Je conclus. À passer en revue certains des dispositifs et quelques-unes des tentatives de Camille Laurence pour donner à lire la voix masculine, j'ai été frappée par la conscience aiguë que l'écrivaine avait de poursuivre là une chimère. La mise en place de procédés narratifs où l'homme peut être silencieusement présent sans qu'elle doive le parler en donne un aperçu, tout comme la tentative d'ancrer la voix masculine dans le corps qui la porte, corps qu'elle peut voir, caresser, désirer, dont elle peut peut-être plus facilement dire quelque chose. Feuilletant la parole des personnages masculins avec les grandes voix d'hommes de la littérature est une autre manière de les interroger sur eux-mêmes, de ne pas renoncer à les faire entendre tout en révélant le caractère nécessairement artificiel, nécessairement littéraire et traître de l'entreprise. Au-delà du savoir qu'en écrivant ce n'est jamais que sa propre voix qu'on donne à lire, Camille Laurence me semble redoubler ce constat par un désir qui est aussi un deuil. Celui de savoir les hommes à leur place, c'est-à-dire ailleurs, dans un autre lieu que les femmes, ensemble séparés, écrivait Aragon. De Philippe à celle que vous croyez, les livres de l'écrivaine disent tous la distance qui oppose les sexes, car les hommes, c'est le sexe opposé. Dès lors, si toute personne qu'on fait parler demeure toujours en partie absente, l'entreprise confine à l'impossible lorsqu'il s'agit de mettre en voix l'autre sexe, l'autre genre, celui dont on n'est pas. Camille Laurence le sait et l'éthique qu'elle déploie en témoigne. Il ne s'agit jamais de parler à la place d'eux, mais bien chacun depuis la sienne. Loin de combler la distance entre hommes et femmes, d'autant que c'est elle qui permet et enclenche le désir, écrire la voix masculine doit surtout faire entendre que cette parole vient d'ailleurs, faire entendre le côté opposé plutôt que la voix elle-même. L'inquiétude devant la trahison que suppose toute écriture par rapport à la voix de l'autre, le vacillement constant et affiché de la présence et de l'absence dans le discours masculin, l'enracinement de toute voix d'homme dans le silence de l'enfant disparu, tous ces paramètres construisent le cadre dans lequel l'auteur donne la parole à l'autre. Tant et si bien qu'elle ne tient jamais une phrase d'homme, comme pouvait le laisser entendre mon titre. Elle ne la tient pas, elle tend vers elle, dans l'impossible désir d'un écho à recueillir. dans ses bras-là, délicatement, confie ceci à l'homme, à ces hommes que nous sommes toutes et tous un peu à désirer l'écriture de Camille Laurence. Ne soyez pas étonnés, j'ai renoncé à vous saisir, mais pas au geste de vous saisir. L'écriture est ce geste, j'écris vers vous. Pardon d'avoir dépassé.